RMC.
C'est pas officiel, je crois. Donc c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non?
C'est vrai que je suis abattu, je suis très triste. Ça fait très mal, mais je vais pas m'arrêter. Ouais, de jouer au football, je serais prêt à même aller au Pôle Nord.
Le Super Football Show.
J'ai essayé Nietzsche, j'ai essayé Kant, etc. Bon, j'ai essayé Socrate, etc. J'ai essayé. Bon, on n'avait pas réussi.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Gilbert Brébois.
Ah, c'est célèbre jingle de la fleur, Athènes
Ben Arfa. Dans ce jingle, génial. Ben Arfa, mais j'avais pratiquement oublié Ben Arfa. Pas une rumeur, pas une discussion, pas un mot sur où va aller le fameux génie.
C'est vrai, pour l'instant il n'y a rien.
Je pensais que le monde entier allait s'arracher.
Daniel Riolo est là.
Le monde entier ne se l'arrache
Jonathan
pas.
Jonathan McCarty est là. Alors Ben Arfa n'est pas au programme de l'Odébat ce soir, si tu veux bien, on en
non,
parle un autre jour.
Non, mais il est dans le jingle. D'un coup, j'ai repensé à lui, parce que moi, j'avais oublié.
Je vous demande d'accueillir Mickaël Correa. Je précise qu'il n'a rien à voir avec Pablo, parce que ça s'écrit pas pareil. Mickaël, bonsoir.
Bonsoir.
Mickaël qui sort.
Es-tu sud-américain?
Non, moi, je suis portugais d'origine.
Nicolas, t'inquiète pas, il nous l'a vendu, rien à dire. C'est un tos comme moi et tout.
Ah bon?
Communautariste.
Une histoire populaire du football. Une vraie enquête aux éditions La Découverte. Tac, je le montre. Voilà, pomme, pour vous qui le suivez sur BFM Sport.
C'est alors, pas une enquête, c'est une histoire.
C'est un mélange entre histoire, ouais, enquête sociale et sport, quoi, en gros. Ça croise un peu tout ça, ouais.
Bon, moi, j'aurais plus qualifié ça d'enquête.
Ouais, non, mais ça me plaît aussi, ça me va.
Alors, oui, parce que ton postulat de départ, c'est que le football, c'est avant tout ultra populaire. Populaire dans le sens classe sociale, pas forcément dans le sens populaire parce que beaucoup de monde le suit.
Ouais, moi j'ai pris, il y a deux sens au mot populaire. Il y a tout ce qui a trait au peuple et donc ce qui s'oppose un peu à l'élite, et c'est quand on pourrait comme ça parler donc de football populaire. Il y a aussi populaire, c'est ce qui a le trait le plus grand nombre, à ce qui se touche le plus grand nombre. Donc c'est un peu un des postulats de départ, c'est comment justement ce football-là, en tant que culture, en tant que pratique, je parle aussi du foot en tant que spectacle, c'est vraiment un élément structurellement très important en termes de culture pour les classes populaires. Et puis après, donc je le trace tout au long de l'histoire.
Avec des exemples précis dans le bouquin, et t'es remonté très loin dans l'histoire.
À la fondation.
Je suis remonté dès le Moyen-Âge, en fait, parce que
c'était pas le foot à l'époque, c'était un jeu qui ressemblait au foot, quoi.
Alors c'était, moi j'appelle ça du proto-football ou des jeux populaires de ballon rond un peu. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des traces dès le Moyen-Âge, donc en Angleterre, mais aussi à l'ouest de la France, en Bretagne, en Normandie, des pratiques populaires. Oui, à Rennes aussi, oui. Et qu'est-ce que je disais? Oui, des jeux qui étaient au fait finalement très violents. Alors c'était des jeux très ritualisés. Souvent ça se passait les jours de Mardi Gras chaque année. Et en gros c'était quelque chose de très simple. C'était, je sais pas moi, deux villages ou deux paroisses qui s'affrontaient avec un ballon. Il fallait juste mettre le ballon dans le camp adverse, mais par tous les moyens possibles. Et quand j'ai tous les moyens possibles, c'est que c'était quand même quelque chose d'assez.
C'est pour Jonathan, c'est du MMA foot.
Ouais, c'est ça. Du grand maga foot, mais ouais, c'était assez violent. Quand je le raconte un peu
mais
dans
avec une symbolique quand même que tu développes.
Oui, c'est ça, oui. Donc c'était, il y a cette violence là.
On voit
qu'il y a des yeux qui sont perdus, des jambes qui sont cassées, etc. Mais la symbolique, elle est ultra importante parce que le but, c'est vraiment de qu'il y ait une cohésion sociale. Ça sert vraiment à unir les communautés paysannes de l'époque. Il y a aussi toute une symbolique entre le ballon et le soleil. On balance le ballon en l'air au début de la partie pour qu'il touche le soleil, pour que quand il revienne, on puisse s'approprier ce pouvoir solaire, quoi. Donc il y a quelque chose de extrêmement ritualisé, et puis si c'est les jours de Mardi Gras, c'est pas anodin non plus. Le plaisir, c'est vraiment de jouer, de s'amuser pendant ces moments-là. Mais c'est aussi une façon, donc, comme je le disais, d'un peu aiguiser la cohésion sociale de chaque communauté paysanne. Mais aussi, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, de régler ses conflits. C'est-à-dire qu'on avait un problème avec son voisin qui nous gonflait depuis une heure, et bim, on en profitait pour lui donner un coup de poing pendant la soupe, quoi. C'était un peu, moi, j'appelle ça, c'est un espèce d'espace de régulation des conflits, quoi. C'est une espèce
comme
de
justice. Du cirque, quand même.
Ouais, c'est ça, c'est une justice un peu populaire de l'époque.
Mickaël, le Moyen-Âge, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel de ton livre. Est-ce qu'il y a de plus intéressant dedans?
C'est la première fois dans l'after qu'on parle du foot au Moyen-Âge.
Ce qui m'intéresse, moi,
je
pense, ce qu'il y a de plus intéressant dans le livre, c'est le foot tel qu'on le connaît aujourd'hui, et donc fin du 19e, début du 20e siècle, et la façon dont ce sport évolue. Tu dis sport populaire, c'est vrai pour les gens qui vont le pratiquer, mais je ne ferai pas moi d'opposition. J'aime pas trop les oppositions de classe sociale, moi, et parce que je très vite, en fait, ce qui va se passer, c'est que effectivement, si l'ouvrier va jouer au foot, que ce soit le politique ou on va dire le membre de l'élite, le patron, on va l'appeler comme ça, ou le notable, va forcément s'apercevoir que ça devient un jeu intéressant. Et qu'il ne faut pas en tout cas s'y désintéresser rapidement, et c'est la réflexion de n'importe quel homme politique, en l'occurrence ça commencera par le maire. À partir du moment où il y a un événement et qu'il y a plein de gens qui viennent voir l'événement, le politique ne peut pas détourner la tête et il faut qu'il vienne voir aussi. C'est toutes les images qu'on a eues pendant des années des maires qui vont dans les stades, et d'ailleurs encore aujourd'hui. Pour ce qui est des patrons, là aussi, souvent, on va avoir... je résume évidemment très très vite ton livre qui a je ne sais pas combien de pages et des histoires fantastiques. 416. Mais entre les équipes issues des usines, jouées par les ouvriers, donc quelque part aussi dirigées par les patrons.
Pour les empêcher d'aller au pub. Ça, c'est le but premier.
Oui, c'était ça. Si,
c'était le but premier. Bon, c'était une manière de contrôler le comportement de ses ouvriers dans son livre.
Aussi que le développement des clubs... le fait qu'ils intéressent les gens et que ces clubs-là se construisent une histoire dans les victoires, souvent, va passer aussi par le fait que le patron ou le notable ou le chef d'entreprise va faire en sorte que l'équipe va se développer. C'est les équipes entreprises, c'est des passionnés comme Roger Rocher à Saint-Etienne, club ouvrier s'il en est.
Ah, donc, question là.
Qui lui-même, c'est pas une question. Qui lui-même est un. Non, c'est pour dire que j'aime pas l'opposition. Je trouve que ça se complète plus. Qui lui au départ est un ouvrier, Roger Rocher, qui va monter les différentes les différents stades de l'entreprise pour arriver à être un patron, et exactement comme Claude Bèze était un petit comptable et qui est devenu expert comptable à Bordeaux et qui est devenu dirigeant.
Alexis, voilà. Tu fais des questions plus longues qu'à Ménard.
Moi j'aime pas les opposants.
Quand tu dis,
que ça s'oppose, je suis pas vraiment d'accord avec toi, et c'est pas non plus.
Non, ça s'oppose pas. Je ne veux pas les opposer pour moi.
Enfin, oui,
c'est ce que je dis. Moi, j'oppose pas les classes sociales.
Moi, je l'oppose pas non plus. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, et c'est vraiment le gros moteur du bouquin. C'est une dialectique permanente, en fait. Et ça, pareil, faut remonter un peu aux origines du foot, et parce que pour moi, les racines du mal, elles sont là. Mais on peut voir aussi que capitalisme industriel et football sont intimement liés, parce que le football, il naît en pleine révolution industrielle anglaise, dans une institution qui est très particulière, qui sont ce qu'on appelle les public schools. C'est des écoles, c'est rien de public, c'est des écoles privées, où on forme la future élite britannique. La plus connue, c'est Eton, où le fameux prince Harry a fait sa scolarité, quoi. Donc, on va leur apprendre ces jeux de ballon-là, ce football-là, parce que le but, c'est vraiment de discipliner cette jeunesse bourgeoise, aussi de leur inculquer des valeurs qu'on a besoin à l'époque, parce qu'on est vraiment en pleine extension de l'Empire britannique, d'un point de vue industriel et colonial aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on va leur apprendre à travers le football? C'est l'esprit d'initiative, l'esprit de compétition, la combativité, le virilisme aussi. Donc, quand ces gars-là vont sortir de ces écoles-là, c'est des futurs grands patrons d'industrie, et ils vont se dire, on va apprendre ce football-là à nos ouvriers pour leur inculquer aussi ces valeurs propres au capitalisme d'aujourd'hui. La division du travail aussi, chacun a son poste et on doit se taire. Mais le problème, c'est que donc, comme tu le disais, les patrons, ils vont plutôt voir ça comme un outil de contrôle social. C'est-à-dire que l'ouvrier, quand il sort de l'usine, il faut pas qu'il aille dépenser sa paye au pub, et surtout, il faut pas qu'il se syndicalise, quoi. Donc, on va leur apprendre le football,
qui, au final, est une école du syndicalisme.
Alors, un truc intéressant sur l'analogie que tu fais, c'est que tu fais un bond dans le temps pour dire que la fédé de foot aujourd'hui, la fédé française de foot aujourd'hui, dans sa formation, reproduit ça. C'est-à-dire, on apprend à des joueurs à tenir un poste, on leur apprend pas le plaisir.
Oui, ça, c'est des analogies qu'on peut faire entre les styles de football et le rapport au travail aussi, quoi. Donc, comme je disais, effectivement, au début, il y a ce football qui est inculqué aux ouvriers, mais qui vont se le réapproprier parce qu'ils vont prendre du plaisir là-dessus, à pratiquer ce football-là. Et puis, au fur et à mesure, ça va vraiment être un terreau d'une vraie culture ouvrière et du coup, aussi, in fine, d'une conscience de classe, quoi. Et du coup, il y a un style qui va vraiment émerger, un pur style ouvrier, qui va être le jeu de passe, le passing game, À l'époque, on faisait vraiment du kick and roll. C'est un jeu, il fallait dribbler et puis foncer droit loin avec le ballon. Et le passing game, c'est quoi?
C'est le football anglais d'origine.
qui aussi
bah, ça repose sur la baston.
Donc tu es en train de nous dire que non, la passe, l'héroïsme, la passe, c'est un truc l'héroïsme. De prolo en fait.
Bah,
c'est
la ce que passe, tu es en train de nous dire. Bah,
la façon dont
le passing game, c'est un peu compliqué hein, le passing game. On, je vais pas le développer là parce que ça va vraiment demander du temps parce que ça, c'est un mélange entre les ingénieurs écossais, les grands clubs comme le Queen's Park en Écosse qui vont un peu pratiquer ce jeu très scientifique, et les ouvriers qui vont retranscrire sur le terrain ce qui va à l'usine et dans leur communauté ouvrière, c'est-à-dire l'entraide mutuelle et la solidarité. Donc la passe, ça retranscrit d'une certaine façon ce qui se fait sur le terrain. Et c'est vrai que pour revenir à la Fédération française de football,
elle servait surtout également à éviter le combat et le contact physique face à des mecs qui étaient plus costauds, aussi parce qu'ils mangeaient mieux.
Oui,
il y avait beaucoup de ça, et c'est expliqué dans comment s'appelle Olivier Guez, son livre qui est fantastique,
Éloge de
l'esquive. Voilà, où il raconte l'histoire de ce passing game,
encore un supporter de Strasbourg.
Mais ça, c'est plus le dribble. Ça, c'est plus le dribble. Encore une autre critique.
Alors, non, que tu reviens à la Fédération française de foot, là, je te laisse conclure. Après, je l'attends, on aura la parole.
Et oui, pour rebondir sur la chevassée de questions, mais oui, sur la FFF, où il y a un peu ce, notamment début des années 60, où c'est l'avènement, c'est les prémices un peu du foot business. Il y a le football. Enfin, il y a les sponsors qui commencent à arriver, il y a les premiers droits télé aussi, les premières retransmissions à la télévision.
C'est balbutiement alors.
Oui, c'est vraiment les balbutiements.
C'est 2 francs le match. Hein.
Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et oui, et du coup, on commence sur le terrain, on commence à se dire, faut qu'on gagne le match parce qu'il commence à avoir certains enjeux financiers. Quoi. Du coup, on va prendre de moins en moins de risques. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'est une certaine philosophie du ballon qui est en train d'arriver avec Elenio Herrera, il commence à gagner pas mal de trophées dans les années 60 avec Milan, avec cette fameuse philosophie du Canetaccio, pardon, cette rigueur défensive, etc. Et en fait, en France, on va commencer à faire c'est notamment Georges Boulogne, le fameux Georges Boulogne, qui va un peu inculquer cette idéologie sportive de dire, on va pas prendre de risques, chacun à son poste, chacun en défense. Même les grands détracteurs de ce jeu-là vont appeler ce jeu-là le béton, parce que c'est vraiment un jeu assez
ennuyeux. Il y avait des mouvements journalistiques à l'époque, il y avait des journaux qui combattaient ça. Enfin, ça, c'est bon.
C'est le miroir du football qui sera une espèce de bastion contestataire de ce football-là.
Et pro-communiste au passage.
qui était assez proche.
Alors que justement, le Catenaccio est un football des pauvres. Donc oui, c'était un combat qui était un peu étonnant parce que c'était un football de pauvres, le Catenaccio.
Alors,
parce qu'on n'a pas les moyens d'être costaud, de pouvoir faire on va développer la chose, quoi.
Il se serait inspiré, c'est la légende des maquisards italiens, face à l'occupant nazi. C'était vraiment ça. C'est comme on n'est pas assez fort, on va se reculer un peu pour les prendre
en
tenaille.
J'ai une question un peu barbare, mais qui à mon sens, questionne vraiment ce qu'est le football. Quand j'ai lu votre livre que j'ai apprécié, il y a quelque chose qui m'a un peu chagriné, c'est qu'en quelque sorte, vous analysez le football sous le prisme d'un matérialisme historique marxiste, il faut le dire, de la manière qui voudrait dire que les évolutions structurelles les évolutions structurelles de l'économie d'une société ont façonné ce qu'est le football. À partir de là, vous appréhendez donc le football comme un fait social. On est d'accord.
Oui, c'est ça. Ouais,
j'ai longtemps pensé que le football était un fait social. Et
je continue de
après,
le penser.
Attention, faut être un peu précis quand on parle de ça. Quand j'ai lu votre bouquin, en fait, ce qui apparaît, c'est que le football n'est pas un fait social au sens strict du terme, au sens Durkheim du terme. Parce que qu'est-ce que c'est un fait social, que la manière dont Durkheim le définit? C'est la manière de faire et la manière d'être d'une société. On est d'accord? La manière d'être, c'est-à-dire ses goûts, son appréciation du beau, sa culture, sa langue, et la manière de faire, c'est son organisation, la manière dont la population est répartie, la manière dont les classes sont organisées, la manière dont les richesses sont réparties. Mais en quelque sorte, quand je lis votre livre et quand je lis toutes les anecdotes et toutes les histoires qui sont très bien racontées, ce qui apparaît plus, c'est que le football, plus qu'un fait social, c'est simplement le reflet et le miroir grossissant des faits sociaux qui structurent la société.
Oui, je sais
pas, donc ce n'est pas un fait social. Bah, et à partir de là, la conclusion qu'on peut en tirer, après la question s'arrête, c'est est-ce que vous ne pensez pas que le football est plutôt un produit culturel, ce qui expliquerait beaucoup de choses et qui nous permettrait donc de mieux l'appréhender, de mieux l'analyser. Dans ce cas-là, par exemple, on pourrait dire si le football est un produit culturel,
c'est plus un objet culturel.
On comprend beaucoup mieux le football aujourd'hui. On est dans une société qui est la société. Alors, je déteste reprendre cet auteur que je ne citerai pas, mais je trouve ce concept assez intéressant. On est dans une société qui est la société du spectacle. Et dans ce cas-là, toutes les critiques qu'on pourrait avoir sur le football, si le football est un produit culturel, c'est totalement compréhensible. Donc, Donc c'est un petit peu cette, je n'ai pas envie de dire incohérence, mais incohérence théorique dans le postulat de base qui m'a un peu chagriné.
C'est pas une incohérence là, je voulais vous poser théorique, la question. Parce que moi j'assume pleinement que c'est, je parle même pas de faits culturels, je parle même de culture de masse. Le football c'est une culture de masse et c'est un divertissement marchand. Et ça, je l'explique dès les origines du foot, comment ça devient très rapidement, comment les grands patrons d'industrie, les débuts de la FA Cup et le premier championnat anglais, c'est clairement ça. C'est des logiques mercantiles qui les animent. Et
alors ensuite, pourquoi aujourd'hui on est choqué quand il y a immédiatement une culture dans le foot,
bah oui.
Quand il y a les gros transferts,
c'est un produit culturel. Quand
il y a... Ah mais après, ça, faut assumer.
En fait, on devrait pas être choqué. Et quand certains disent c'était mieux avant ou avant il n'y avait pas tout ce business, moi je le tue à répéter exactement. Sans arrêt. Mais à quel moment l'argent n'a pas dominé dans le football? Puisque de toute façon, dès le début, tu es d'accord avec nous, toi qui écris l'histoire populaire du foot.
Après moi, ce que je raconte, moi dans mon livre, c'est que je raconte vraiment pour venir à cette histoire de dialectique, c'est comment il y a la culture, il y a une culture de masse.
La dialectique entre quoi et quoi?
Entre la culture de masse, donc j'y arrive, et la culture populaire.
D'accord.
C'est vraiment la culture de masse qui est aux mains des patrons d'industrie et qui fait du football un vrai produit industriel, ça faut pas se le cacher. C'est le football qu'on connaît tous, c'est le football que vous commentez ici. Et après, et ça c'est le but de mon livre, il y a aussi un autre football qui lui appartient au peuple, hein, ce qu'on appelle le football populaire, qui lui échappe à ses logiques mercantiles. Mais le truc c'est qu'il y a toujours eu une dialectique.
C'est ça, ouais.
Bah je parle du football amateur, du football de rue, le vrai football de rue qui se joue de façon sauvage. Alors je parle pas forcément en France, mais dans les quartiers populaires un peu partout.
Ouais.
Et là il y a une vraie dialectique. C'est pas deux espaces qui sont totalement cloisonnés. Au contraire, je l'explique plein dans le livre. J'ai plein d'exemples que je peux déployer après. Comment il y a toujours un dialogue permanent entre cette culture de masse, entre ce football industriel et ce football qu'on pourrait qualifier de plus populaire ou autonome en tout cas.
Michael Correa est avec nous, une histoire populaire du football aux éditions La Découverte. Tu parles aussi du mouvement ultra et de ce qui se passe dans les tribunes, parce que bon, il y a ce qui se passe terrain, les passes, tout ça. Tu établis des parallèles. Tu fais notamment un parallèle que j'ai lu par ailleurs entre les zadistes actuels de Notre-Dame-des-Landes et les ultras.
Oui. Bon, ça c'est surtout la question du. Bon, savoir que ce soit dans la culture Hulls au début des années, enfin à la fin des années 60, ou dans la culture ultra qui elle va plutôt émerger pareil au début des années 70. Vraiment la question pour les jeunes, hein, c'est vraiment les premiers. Bande juvénile qui apparaissent, hein, c'est le début de la société de consommation, on veut aussi s'affirmer en tant que jeune, puis c'est aussi la fin des communautés ouvrières, du coup on a envie de ces jeunes-là veulent refaire communauté, et pour refaire communauté, quand on a pu c'est nos quartiers ouvriers, nos communautés ouvrières, on va investir un nouvel espace qui est les tribunes des stades.
Enfin, même pas c'est la restructuration urbaine de l'Angleterre, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. En Italie aussi, hein, y a les grands quartiers de Turin et tout qui ont été lourdement bombardés, etc. Bref, on va vraiment s'approprier les virages comme un nouveau territoire.
Un nouvel espace de liberté, en fait.
Un nouvel espace de liberté pleinement. Hein, c'est ce qui va se passer aussi aujourd'hui en Afrique du Nord. Au même titre que dans les années 80, il y a eu les squats en Italie ou en Allemagne. Dans les années 90, les rêves partis en Angleterre ou en Europe. En Afrique du Nord, aujourd'hui, pour moi, il y a les tribunes de stade qui sont vraiment.
Oui, t'explique qu'en Égypte, le printemps arabe, il est parti, les tribunes.
Mais voilà, c'est les grands espaces de liberté aujourd'hui. Alors, le lien, donc, avec la ZAD de Notre-Dame-de-Landes, parce qu'il est important, c'est vraiment comment on peut s'approprier, et les ultras le font, et les zadistes pour moi aussi le font, s'approprier pleinement un espace, y développer des pratiques culturelles, je termine, et aussi un peu s'échapper de la répression policière, quoi.
Donc, il y a vraiment l'appropriation d'un espace.
Oui, voilà,
ok. On lui donner lui donner une identité et aussi développer différentes pratiques de résistance.
Sauf que les ultras notamment face
au peuple, ils s'opposent au peuple aussi qui ne sont pas d'accord.
Sauf que
les imposent leur conception.
C'est que la construction identitaire du mouvement ultra
aussi
se déroule. Attends, la construction identitaire du mouvement ultra se déroule dans un cadre institutionnalisé qui est celui du club.
Oui, c'est sûr.
Après, le zadiste n'a pas ce cadre institutionnel.
Ah ben si, c'est celui d'un territoire aussi. Puis il y a aussi.
Mais c'est non, c'est un concept qui est ultra flou. Alors dans ce cas-là, il y a une dichotomie totale entre la
population et question, le.
C'est une analogie.
Pour continuer là-dessus, donc les ultras seraient de gauche.
Non, ils sont pas de gauche.
La plupart, ils véhiculent plutôt des valeurs de droite, comme l'identité, le territoire.
Non.
La faute est claire, c'est valeur de droite, est-ce qu'il y a valeur de gauche?
Avec vous.
Alors attends, réponse de Mickaël.
Oui, ça dépend.
Ça veut rien dire, valeur de droite.
Je vais revenir. Ces valeurs-là, elles ont beaucoup évolué.
Et si vous parlez tous ensemble, on comprend.
Oui, il faut me laisser le temps de développer. Je vais revenir. Pour répondre, je vais appuyer sur l'histoire et sur cette question d'identité de territoire. Sur l'histoire, déjà, vous savez que les ultras, c'est vraiment les, durant le mouvement italien de 1968 à 1978, parce qu'on a appelé en Europe les années de plomb. Pour moi, c'est plutôt vraiment des années de révolte sociale assez folle. Et on va avoir des pratiques des manifestants, des pratiques qui étaient propres aux groupuscules radicaux de gauche, qui vont vraiment émerger dans les stades, parce que c'est les mêmes jeunes en fait qui sont dans la rue à cette époque-là et qui vont aussi dans les tribunes quoi. Donc c'est un peu s'organiser en petits groupes, être derrière une bâche, avoir une espèce de militantisme radical, etc. quoi. Et après oui, sur les questions d'identité et territoire, donc c'est vraiment deux valeurs qui sont structurantes dans la culture ultra. Après c'est pas forcément des valeurs de droite. Alors effectivement, l'extrême droite avec le mouvement Ligan et avec les ultras en Italie dans les années 90-2000 a très bien su tirer ça à son profit. Mais l'identité et le territoire, et je reviens encore une fois à Notre-Dame-des-Landes, hein, désolé, ça peut être aussi des valeurs inclusives et non pas exclusives. Le territoire, ça peut être aussi synonyme de solidarité, synonyme d'entraide mutuelle. L'identité, ça peut être aussi quelque chose de collectif, d'accueillant et aussi d'imaginaire politique.
Donc, l'identité, ça... d'identité à gauche, on l'a vu chez Chevènement, on le voit moins dans le concept de l'international.
C'est des angles morts de la gauche pour moi aujourd'hui, ces questions d'identité de territoire, mais et que les ultras vivent un peu. Après, il y a des ultras qui sont un peu, notamment en France, plutôt portés à gauche. Hein, je pense aux ultramarines de Bordeaux. Il y a aussi des ultramarines qui sont très très à droite, comme les Bandguns de Lyon. Et puis il y a des ultras où c'est juste l'amour du club, la passion du club. Oui. Et basta, il y a aucune question politique là-dedans.
Ce débat est passionnant, nous dit Lucho, qui est revenu. Vraisemblablement, il avait quitté Marseille il y a quelques temps. Il est sur le hashtag RMC Live. Et puis Foufout qui dit « Mais Daniel, laisse parler les gens !» Excellent message.
Je suis d'accord.
Voilà. Et puis Brooke qui nous dit « Les zadistes, bingo, je suis un génie, je l'avais prédit que ça allait arriver dans le débat. » Bon, voilà. Enfin, il y a du monde qui nous suit. Donc, on reste ensemble avec Mickaël dans quelques instants. On continue le débat, et puis le 32-16 est ouvert. Hein. Si vous voulez débattre avec nous, bien sûr. À tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show. L'after foot, Gilbert Brébois.
Daniel Riolo, Jonathan Macardy et donc Mickaël Correa, une histoire populaire du football aux éditions La Découverte. Je vous le conseille. Lecture pendant la Coupe du Monde. Voilà. L'after, on conseille pas souvent des bouquins quand même, Daniel. Quand on les conseille,
faut on en reçoit pas mal. On
en reçoit pas mal, mais on les conseille pas toujours.
Généralement, les choix qu'on fait, c'est qu'on les trouve intéressants. Sinon, on les invite pas.
Alors, il y a plein de sujets. J'aimerais juste que tu dises un mot, parce que tu racontes une histoire que j'ai totalement découverte sur le foot féminin en Angleterre.
Faut savoir. Mais ça, c'est une histoire qui a complètement été mise sous le tapis, mais c'est pas anodin non plus. C'est vrai qu'effectivement, en Angleterre, il y a déjà eu dès la fin du 19e, un premier club qui était un peu aristocrate, d'anglaise. Ça s'est très mal passé parce que les hommes hallucinaient de voir des femmes en culottes courtes. Il y a eu des émeutes, etc. Donc, hop, on a oublié ça vite fait. On était vraiment dans une société victorienne extrêmement puritaine. Et ensuite, il y a eu un deuxième volet qui est beaucoup plus intéressant. C'est durant la Première Guerre mondiale, quoi. Faut savoir qu'à l'époque, tous les hommes partent au front en Europe, les usines sont totalement vides et en même temps il faut produire en masse des obus, des munitions, etc. quoi. Donc on va mettre toutes ces femmes sur les chaînes de montage. Il va quand même plus avoir plus d'un million de femmes dans ces usines là et qui vont vivre, c'est vraiment très dur. Elles vont travailler 12 heures par jour. On va les appeler aussi les canaries parce qu'elles ont le visage jaune fluo à cause de la TNT qu'elles manipulent. Bon, il y a plein d'accidents. Je vous ai parlé des détails, etc. Mais en fait, au même titre que les hommes, donc que les ouvriers jouent au foot, on va commencer à leur dire, comme vous assurez, comme le but c'est de démontrer à la nation que vous aussi les femmes vous assurez à l'usine, il faudrait que vous repreniez le loisir par excellence des hommes, donc qui à l'époque le foot, et pour démontrer que vous assurez aussi comme des hommes sur le terrain. Quoi. Et donc on va avoir des équipes qu'on va appeler les munitionnettes, c'est le surnom qu'on leur donne. puisqu'elle s'occupe des munitions. Mmh. Et on va embarquer comme ça un peu sur toute l'Angleterre, environ 150 équipes de football sur toute l'île, quoi. Le truc, c'est que ça va devenir extrêmement populaire, quoi. Il y a quand même un match dans les années 20 durant le Boxing Day, à Liverpool, où on va avoir jusqu'à 50 000 spectateurs, quoi. Et régulièrement, je le raconte, hein, il va avoir vraiment un vrai public qui va s'enquicher de ce football.
Et là, on est donc dans les années 20. C'est étonnant.
Alors oui, là, c'est vraiment, c'est en 17 que ça naît, en 18 que ça se développe. Dans les années 20, dans les années 21, l'Angleterre va même accueillir une équipe française, hein. C'est une équipe, c'est un combo de petites équipes parisiennes, pardon, qui vont former une sélection française. Elles vont être accueillies comme des reines. Il va avoir, tous les journalistes vont les accueillir avec joie. Alors le truc, c'est que ensuite les hommes vont revenir à la charge, enfin notamment la fédération anglaise. Elle va, enfin le discours à l'époque, ça va être de dire bon, les hommes sont rentrés au front, on a perdu des millions d'hommes durant la guerre, il faut repeupler le pays. Du coup, votre mission maintenant, ça va plus être de jouer au football, vous allez rentrer à la maison et vous allez faire des enfants pour repeupler le pays, quoi. Et on va avoir comme ça tout un discours médical un peu fallacieux à l'époque, de dire ah bah le foot c'est quand même un sport violent et ça peut organiser léser les organes reproducteurs de la femme.
Oui, ça c'était pareil dans l'athlétisme, on disait aux femmes ne faites pas d'athlétisme, il va y avoir des descentes d'organes.
Oui, c'est ça. Et là, le foot donc va être interdit en Angleterre en 1921. Il faudra attendre 50 ans pour qu'il redevienne autorisé au sein de la fédération, quoi. Mm-hmm.
Jonathan.
Une question plus franco-française.
Féminin, je t'ai pas interrompu.
Oui, oui, voilà.
Ouais. C'est sûr, là, c'est un sujet. C'est un sujet, j'interromps jamais personne.
C'est une des passions de Daniel, le foot féminin.
Quel lien tu ferais entre l'évolution du monde rural français et la décrépitude du football amateur dans certaines zones de France?
Ah bah ça, je pense, je ferais plutôt un lien entre du coup l'État et la Fédération française de football. Déjà, enfin rien qu'en termes de chiffres, faut savoir que ces 5 dernières saisons, il y a eu à peu près entre 3, 4 voire 5 000 clubs amateurs qui ont mis la clé sous la porte, quoi. Ça, je pense qu'il y a un des gros problèmes, c'est qu'il y a justement, alors il y a Macron qui parle tout le temps de ruissellement des richesses. Là, au sein de la FFF, il y a quand même une concentration d'argent qui fait que il y a vraiment très peu d'argent qui est réinjecté dans le milieu amateur. Il y a aussi toute la crise du bénévolat, toute la crise du salariat associatif aussi, qui touche pleinement tous ces petits clubs en milieu rural, quoi. Puis après, ce qui est important en milieu rural aussi, c'est que souvent le club de foot, c'est un des rares espaces de sociabilité où on peut se rencontrer, où on peut voir un peu des gens différents, d'âge différent, de sexe différent, de couleurs différentes, etc. Il y a vraiment, il y a vraiment un rôle social et aussi éducatif extrêmement important, quoi. Et ça, je pense que la FFF l'a pas comprise. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est rien qu'en termes de démocratie au sein de la fédération. Je rappelle qu'il y a quand même les 40 grands clubs professionnels.
Qui votent directement, les autres votent indirectement, c'est ça?
C'est surtout que cette quarantaine de clubs professionnels représente 37% des voix. Et donc tous les autres clubs, il y en a à peu près 14 000, si je me trompe pas, vont voter indirectement. Donc il y a vraiment un problème de pouvoir, quoi. Si j'étais radical, et c'est ce que disaient un peu en mai 68, les gens qui occupaient la FFF, là c'est quelque chose que je raconte dans le livre aussi.
C'est vrai que je posais la question.
Si j'étais un peu radical, pour moi ce serait un club une voix, quoi, ou même un adhérent une voix au sein de la FFF, et puis comme ça tout le monde serait sur un pied d'égalité.
Un des récents candidats à la Fédé a proposé ça, il s'est fait blackbouler vite fait.
Le problème de un adhérent une voix, c'est que ça peut déboucher sur ce qu'on a vu à la FIFA pendant longtemps, un pays égale une voix. Et certains pays, petit billet, c'est rapide.
On l'a vu, hein. Un adhérent une voix, ça revient un peu à la proportionnelle à l'Assemblée, c'est le bordel.
Il y a plein de voix qui avaient été achetées dans les campagnes, dans les foot amateurs, avec un sac de ballon, quoi.
Oui, après, donc, c'est ça, tu pointes ça, après, moi, je pointerai d'autres choses. C'est le dernier rapport de la Cour des comptes de la FFF. Et là, pareil. Pareil, pour faire le parallèle avec le gouvernement.
T'as remarqué comme on en a beaucoup parlé dans les médias?
Pour faire
de ce rapport, t'as remarqué comment on en a beaucoup parlé?
Non, je suis d'accord.
Non, parce qu'il a quand même beaucoup d'amis dans les médias qui...
Non, ça, je suis d'accord.
Il verrouille bien le président.
Je suis complètement d'accord avec
ça,
toi.
Ça, oui, mais c'est quelque chose, c'est incroyable ce rapport de la Cour des comptes.
Et donc, il y a quand même,
évoqué.
Des choses, ça a été très peu évoqué, mais c'est quand même un rapport hallucinant. On voit quand même des dirigeants de la FFF qui prennent des billets d'avion hors de prix. Ça, pour moi, le premier parallèle que j'ai fait, c'est l'affaire du Tokyo-Paris de Édouard Philippe, notre cher Premier ministre, qui, pareil, paye des billets d'avion hors de prix sur le dos du contribuable. Et là, pareil, la FFF, donc la Cour des comptes, a quand même halluciné sur tous ces émargements, sur tout cet argent,
et
sur
si
tous ces billets d'avion,
ça fait scandale pendant des semaines et des semaines, on en parle.
Ça devrait faire scandale aussi
évidemment,
en France
pour être
sur
précis,
la FFF.
C'était Noël Le Graët.
C'est une délégation de services publics, quand même.
Et les avions privés, avec un nombre de vols, effectivement, en avion privé assez important. Et puis, l'autre révélation
dépenses,
de la Cour des comptes,
c'est des dépenses.
Je rappelle que la fédération, elle appartient à ses adhérents. Elle appartient en 2000 ans licenciée en France.
Dans le rapport de la Cour des comptes, le plus gros poste dénoncé, non, c'était les indemnités de départ hallucinantes qui étaient données à des salariés qui, parfois, avaient que 6 mois d'ancienneté.
Aussi, ouais.
Mais tu sais pourquoi?
Exactement.
Parce qu'il devait tout nettoyer et n'avoir que des gens à sa botte. Il a fait partir des gens comme ça.
Oui, mais dans des conditions royales.
Mais évidemment. Mais ça n'a pas été évoqué. T'as vu un média en parler.
C'est vraiment une question démocratique qui est vraiment importante aujourd'hui dans le sport et encore plus précisément au sein de la fédération.
Ce qui fait beaucoup réagir sur l'hashtag RMC Live, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur le mouvement ultra. Et oui, parce qu'on est très écouté par le mouvement ultra et on nous dit attention, c'est quand même le mouvement ultra aujourd'hui est très majoritairement de droite. On me cite quelques clubs avec des groupes à gauche, Bordeaux, le Red Star, Sankt Pauli en Allemagne.
Après en Italie. Ils ont pratiquement tous basculé à droite, alors que pendant longtemps. Alors ça, c'est un truc intéressant, les fameux clubs. Ça, c'est un truc qui intéresse toujours les auditeurs. Bon, on aime beaucoup parler de ça. C'est toujours chouette. C'est la façon dont certaines villes où les clubs se divisaient. Le club populaire, le club des bourgeois.
Bah, c'est le Torino contre la Juventus
dans les villes à Turin, à Rome, à Londres.
Donc PSG
aussi.
Red Star, on est dans les clubs.
Non, à Paris, on l'a jamais eu.
On n'est pas un pays de football pour avoir ce genre de...
Non, on n'est pas ça.
Il y a le vrai, pour moi, derby français, c'est Lyon et Saint-Etienne.
Le seul qui revêt cet aspect sociologique, c'est ça. Mais c'est pas dans la même ville.
Mais effectivement, ce moteur-là, c'est rivalité.
Mais comment ça se mettait en route, ces trucs-là? Par exemple, à Milan,
Je pense, encore une fois, faut vraiment puiser l'exemple du Torino et de la Juventus. La Juventus, c'est vraiment le club aristocratique par excellence. On l'appelle la vieille dame. Ça appartient aussi à la famille Agnelli, qui est aussi la famille qui détient.
Oui, mais c'était supporté par tous les ouvriers.
Oui, c'est ça. J'allais en venir parce que ça, c'est intéressant, justement, ce qu'on disait dès le début sur les contradictions du foot. Donc, effectivement, c'est le club aussi qui appartient, donc, la grande famille bourgeoise Agnelli, qui a aussi toute l'industrie Fiat. Et il y a le Torino, qui est vraiment le club de la cité, des petits artisans avec la couleur rouge, Grenade, etc. Quoi. Donc, on dit toujours Torino, c'est le club de gauche, et la Juventus, c'est le club de droite. Bon, c'est plus complexe que ça, comme tu dis, Daniel, parce que pour tous les ouvriers immigrés du sud de l'Italie, la première phase d'intégration, ça passait par l'usine et
c'est
par
ça,
le stade, et
ça,
par le stade
c'est
de
ça,
football.
C'est ça.
Et du coup, pour beaucoup d'ouvriers issus du sud de l'Italie, leur club favori, c'était la Juventus de Turin, parce que c'était le club de leur usine. Donc, les frontières sont beaucoup plus complexes que ça. Quoi. Après, il y a des...
Arrêtons-nous sur Milan, parce que c'est formidable. Et moi, ce que j'adore dans le foot, et tu le dis, c'est vrai, il y a pratiquement que des contradictions. C'est des contradictions permanentes, et je trouve que c'est ça qui rend foot hyper intéressante. Milan, c'était effectivement longtemps l'Inter, qui d'ailleurs n'a pas le nom de Milan à l'intérieur, c'était le club de la bourgeoisie. Et ça, pour le coup, c'était vrai. Les gens qui jouaient dans le club, il y avait un port de corps, les mecs, Facchetti, tous ces joueurs-là avaient une certaine allure. Et Milan, c'était vraiment le club des ouvriers, soutenu pendant très longtemps par un homme politique, Fausto Bertinotti, qui était le leader très important du parti communiste, surtout refondation communiste pour être précis. Et après, Berlusconi est arrivé. Et alors là, Berlusconi qui vient de la gauche.
C'est vraiment l'avènement.
Qui vient de la gauche au départ. Non, mais il vient de la gauche au départ. Il est au PS. Et alors là, le basculement.
Je connais plein du PS qui ont basculé à droite.
C'est vrai. Et là, les supporters de Milan, entre ceux qui étaient les ouvriers communistes, machin, qui ont vu arriver, les nouveaux riches, parce qu'un tas de nouveaux riches se sont mis à supporter Milan en Italie, tous ceux qui ensuite ont suivi même Berlusconi dans ses pérégrinations politiques et sportives, et ça a donné tous ces mélanges et toutes ces contradictions, comme à Rome. La Roma, c'est le club populaire. La Lazio.
Ouais, la Lazio,
La Lazio, c'est le club
très à droite. Qui est très à droite
aussi. La Lazio a toujours été et assumé très à droite et c'était pas le club populaire, c'était le club des régions,
c'est le club des régions
et des quartiers riches de la ville.
Voilà.
Et des quartiers riches.
Il y a toujours, quand tu remontes à l'origine des clubs, il y a toujours une origine, on va dire, géographique. Par exemple, la manière dont Boca s'est construit par rapport à River, c'est que Boca c'est le club des immigrants et un jour River Plate a déménagé dans un quartier huppé,
le quartier de la Nunez, et c'est devenu le club de la bourgeoisie à Buenos Aires.
Il est vu comme ça, c'est vu comme le club un petit peu noble parce que à la base il y a une scission avec Boca et qu'ils ont décidé de déménager dans un quartier qui était le quartier des gens aisés.
Et est-ce qu'ils faisaient attention à la face aux joueurs
bien
que
sûr.
Tu prenais?
Mais bien sûr.
Par exemple Francesco Lee qui était beau, bien classe sûr. Et tout, et à côté t'avais les mecs qui étaient un peu plus bas.
Après pour revenir sur l'histoire,
bien sûr, bien sûr. Maradona, non mais Maradona c'est l'incarne. Oui, Francesco Lee plus Gallardo.
On me demande Michael, c'est Tony Truant qui lui demande ça. Salut Tony. Il lui dit, est-ce que ça marche pour Lille et Lens?
Pour Lille et Lens, au niveau quoi du derby?
Ça aurait pu fonctionner aussi.
Après,
on n'est pas un pays de football, donc
c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'il y a vraiment des questions d'identité qui sont forgées au cours du temps. Bon, pour citer par exemple l'exemple du Red Star. Moi, je suis supporter. Il se trouve que je suis supporter du Red Star de Saint-Ouen. L'équipe du Red Star de Saint-Ouen. Rien que l'histoire, elle est assez intéressante. C'est quand même Jules Rimet qui est quand même le fondateur de la Coupe du Monde, qui est le fondateur de ce club-là. C'est le deuxième club le plus vieux de France après le Havre, après l'équipe du Havre. C'est quelqu'un qui est plutôt nourri du catholicisme patronal, légèrement ancré à gauche. Le premier terrain du Red Star, c'est quand même le Champ de Mars sous la Tour Eiffel.
Quoi. Ah, ça, je sais
c'est
pas.
Après que ça va bouger, je sais plus où. Et puis après, ça va être le fameux Stade de Paille, donc, mais qu'on appelle maintenant le Stade Bauer, et qui est à Saint-Ouen. Et c'est le fait que le club soit à Saint-Ouen et que ce soit devenu une ville de la fame de ce qu'on appelle la banlieue rouge, hein, une ville à l'identité ouvrière, que cette identité ouvrière a débordé sur le club, quoi. Donc à partir de là, oui, il faut vraiment à chaque fois bien réancrer l'histoire des clubs dans leur histoire sociale et aussi dans leur histoire politique, quoi. Lens, et c'est pareil,
Saint-Ouen,
hein,
Monte en Ligue 2. La mairie de Saint-Ouen, il y a eu un basculement il n'y a pas longtemps là.
Ah non, c'est toujours à gauche, Saint-Ouen.
Non, c'est toujours à gauche. Bah oui. Après, par contre, on a plus le stade n'est plus donc n'est pas aux normes pour aller en Ligue 2. On va a priori jouer à Colombes.
Ah oui,
à Colombes,
bah, a priori. Vois, même nous, on y a fait un match l'année dernière.
C'est vrai,
on a joué.
Ouais. On a des amis du Red Star.
D'accord.
Bon. Nous aussi. Il y a longtemps qu'on n'a pas. Faut qu'on invite Patrice Haddad. Il y a longtemps qu'il
nous raconte un peu comment ça marche.
Ouais,
Michael, merci beaucoup.
Merci à vous trois.
C'était très intéressant.
Merci.
Donc une histoire populaire du football chez La Découverte pour tous ceux qui sont intéressés. Il y a beaucoup de monde qui a suivi ça sur le hashtag RMC Live, sur Direct Studio. Donc voilà, tu as conquis du monde ce soir.
J'espère.
Par ton discours. Merci Michael, à très bientôt. Nous dans quelques instants.
À bientôt.
On part Argentine et quiz, bien sûr, dans l'after.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Gilbert Brébois.
Jonathan Macardi, Daniel Riolo, avant l'Argentine, 2-3 petites infos mercato quand même, vous dire que Favre à Dortmund, c'est officiel. Et ce soir, on apprend que Philippe Montagnier devient le nouvel entraîneur de Lens.
Vous rappelez qu'il devait prendre le Barça à un moment, il y a des rumeurs. La Sociedad, c'est le Barça qui l'avait placé à la Sociedad pour. On vous rappelle pas ça.
On a bien eu la rumeur Maxi Lopez, supervisé par le Barça.
Arrête, tu peux pas t'empêcher.
La plus belle, c'était Valbuena.
Charles Caboret, Charles Caboret, voulu par Mourinho. C'était ça la plus belle.
On a même eu son agent.
C'est ça, c'est belle.
Christophe Hutto qui nous a avoué que, bon, il l'avait quand même bien placé celle-là.
Sinon, au Barça.
Jean-Louis Montagnier à Lens, donc deux choses quand même. Donc, mauvaise nouvelle pour Lens et bonne nouvelle pour la DTN.
Quand même, on attend maintenant celui qui prendra sa place pour former les entraîneurs en France.
Et puis sinon, qu'est-ce que j'avais Jean-Louis Garcia n'est plus entraîneur de Troyes. Bon, il descend.
Après, il va faire quoi
Virer. Et puis Sochaux a un nouvel entraîneur. C'est un Espagnol. Je ne sais pas si vous le connaissez, José Manuel Aira. Voilà, nouvel entraîneur de Sochaux, puisque Peter Zeidler part en Suisse, à Saint-Gall. C'est un gars qui vient de La Corogne. Ancien défenseur central de La Corogne, le nouvel entraîneur de Sochaux. Attention, foot argentin tout de suite, jingle McCarthy.
Celle du bisounours CI, quitte à résister aux objurgations des esprits chafouins, la déception un petit peu conjoncturelle de cette non-qualification, c'est que t'aimes pas ce Monaco mais pénalise l'équipe.
Là j'ai tout compris.
C'est bien s'il a compris.
Nous t'écoutons, tu voulais nous parler de la liste argentine pour la Coupe du Monde.
Alors, il y a deux jours, Sampaoli a annoncé sa liste de 23. Alors, quand on regarde un petit peu le panorama des sélections sud-américaines...
Il prend 23.
Il avait donné 35 et puis il a donné ses 23 dans une conférence de presse. On y reviendra un peu plus tard. Alors, quand on regarde en fait le panorama des sélections sud-américaines, qu'est-ce qu'on a? On a les Uruguayens, qui sont toujours aussi solides défensivement, qui ont leur doublette d'attaque magique et puis qui ont plein de nouveaux petits jeunes que vous allez découvrir. Ans. Non, plein de nouveaux petits jeunes au milieu que vous allez découvrir. Betancourt, Vecino, Hernandez, qui transforment un petit peu l'identité de ce jeu.
Non, mais là,
il
parle de l'Uruguay.
Je parle de l'Uruguay, là. Je t'ai dit, t'as le
Brésil. J'avais envie de voir aussi l'Uruguay.
Mais on n'a pas. Si tu parles du. On parle des. On a des Brésiliens qui roulent. Bah non, mais s'ils s'affichent sur l'écran.
Qu'est-ce qu'il
est chiant.
On a le Brésil qui roule sur le continent depuis que Tite a repris en main l'équipe. On a le Pérou que beaucoup considèrent comme un faire-valoir pour l'équipe de France, mais qui va en surprendre plus d'un avec pas mal de petits joueurs devant Flores, Cuevas et compagnie qui vont donner le tournis à la défense des Bleus. Et puis on a la Colombie, qu'on a vu battre l'équipe de France avec deux absents majeurs, Cuadrado et Cardona. Et puis on a l'Argentine, la liste des 23 Argentines. Et quand on voit en fait la liste et quand on voit l'état de la sélection, en fait, c'est à l'image de l'espèce d'ébullition cérébrale qu'il y a dans le cerveau de Sampaoli.
T'as vu le troisième gardien, c'est le frère de Giorgio.
Arrête, un peu de couper pour rien. Ce que je t'ai dit, c'est que c'est, on va y revenir en plus précisément. L'état de la sélection argentine, on est dans le flou total. Alors quand on regarde la liste, Daniel, t'as pu la regarder sans te concentrer juste sur Armani. Il y a de la solidité. C'est une liste qui est séduisante. Il y a de la solidité derrière. Otamendi avec Fazio. T'as Gliafico qui est un super bon latéral qui va exploser. T'as de la créativité au milieu avec Banega, Lo Celso, Biglia. Et puis devant, t'as un potentiel
Biglia,
offensif de dingue.
Toute sa vatte,
hein. Ouais, mais bon. Enfin, devant, t'as un potentiel offensif de dingue. Messi, Agüero, Higuaín. Dybala qui finalement est là, Icardi qui n'est pas là,
est-ce
mais bon.
Est-ce qu'il va essayer de faire jouer Messi et Dybala ensemble? Je pense que tu crois que ça sera tenté.
Je vais y venir.
Ah bah, donc tu vas venir à tout.
Bah oui, c'est ma qualité. Ouais. Sur le papier, il est évident que l'Argentine, donc, elle peut prétendre à la gagne. Mais le souci, c'est qu'à l'heure de partir en Russie, quand
Tu viens nous dire que l'Argentine peut gagner la Coupe du Monde?
Sur le papier.
Avec les éliminatoires pourraves qu'ils ont fait, là.
Moi, j'exclus pas une belle performance.
Je vais t'expliquer pourquoi.
Quand t'as Messi dans ton
équipe. Moi, j'exclus pas qu'ils battent la France en 8e.
Je vais t'expliquer pourquoi l'Argentine peut gagner. Sur le papier, la sélection, elle est belle. Mais quand on regarde dans les faits, sur les 10 matchs que Sampaoli a fait, c'est un gros brouillon. Sur 10 matchs, t'as jamais eu la même composition d'équipe. Il a alterné les systèmes tous plus abracadabrantesques les uns que les autres. Et puis là, t'arrives avec le peu de certitude que tu avais. Sampaoli les a balayés dans le revirement en conférence de presse. Je pense que l'Argentine, c'est la seule sélection qui va se pointer au mondial sans savoir qui sera son numéro 1 dans les cages. Romero, qui a quand même fait deux Coupes du Monde, qui a fait les Copa América, il est victime du fait que Armani, le frère de Giorgio, comme Daniel l'appelle, qui jouait en Colombie, qui est un super gardien, soit revenu à River Plate justement pour se faire voir aux yeux du sélectionneur, avoir sa chance en sélection. Donc du coup, on sait plus du tout qui va être dans les bois. Dans les cages. On pensait que l'Argentine allait jouer en 4-2-3-1, comme c'était le cas lors des trois derniers matchs. Mais finalement, Sampaoli a annoncé que ça se jouerait en 2-3-3-2. Oui, vous avez bien dit, 2-3-3-2. Mm-hmm. Et puis donc, du coup, il n'y a plus aucune certitude. Alors, quand on regarde comment ça peut s'agencer, l'équipe type, c'est dur de la dégager. Je vais essayer de te la donner. Armani dans les cages, tu vas avoir une charnière.
Carrément, tu le vois titulaire?
Oui, c'est ce qui est possible.
Ok, très bien.
Surtout, vu la saison qu'il a fait à River Plate. Tu vas avoir une charnière Otamendi, Fazio. C'est pas mal. La ligne de 3, donc ça sera Biglia ou Mascherano, mais ça sera plus Biglia si j'ai remis de la sa blessure. Sampaoli veut le faire jouer, il a dit qu'il était
équipé en plateforme. Quoi, ton truc. C'est-à-dire que le Biglia ou le Mascherano, il va descendre, t'auras trois défenseurs et hop.
Dans l'animation, non. T'auras, sur les côtés, Tagliafico, qui est un vrai latéral, qui est très bon avec Mercado.
C'est donc Koufig, en français. Taifig.
Ouais, c'est ça, ouais. De la ligne de 3 devant des milieux, ça sera Banega en 10 avec deux ailiers. Donc, Di Maria qui va jouer à gauche, qui m'aura un peu chagrin. Et puis, sûrement, le petit Pavone de Boca qui est en train d'exploser. Et puis, devant, Messi qui sera associé avec un autre attaquant. Écoute, sur le papier, c'est bien, mais quand tu vois le contenu des matchs, ça fait très peur. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que quand on regarde un petit peu les joueurs qui composent cette sélection, c'est des joueurs qui arrivent au bout de leur histoire avec la sélection. Higuaín, Agüero, Banega, Di Maria, Mascherano. C'est des joueurs, c'est leur dernière Coupe du Monde et c'est surtout leur dernière chance de gagner quelque chose avec la sélection. Alors oui, j'ai envie de croire dans cette génération, j'ai envie de croire dans le sens de l'histoire, j'ai envie de croire dans le destin, et j'ai surtout envie de croire dans la destinée d'un homme. Parce que s'il y a bien quelque chose que Sampaoli a dit, avec lequel tout le monde sera d'accord, c'est que cette sélection, c'est la sélection de Messi. Et si l'Argentine, tu vois, il y a quelque chose qui peut faire qu'elle gagne cette Coupe du Monde, ou du moins qu'elle soit présente dans le dernier carré, et ben c'est quelque chose d'un petit peu irrationnel, d'un petit peu irréel, d'un petit peu impalpable, c'est un petit peu l'ingrédient qui fait que le football est beau et imprévisible. C'est qu'un homme, cet homme qui a quand même, qui je pense est le meilleur joueur de l'histoire du football, de l'histoire du football, et il peut pas quitter la scène internationale sans avoir fait quelque chose avec sa sélection. Donc c'est pour cette raison que je crois que l'Argentine, soudée autour de Messi, arrivera à faire quelque
finale,
chose.
Il était en finale il y a pas longtemps. Juste un mot d'Icardi quand même.
Icardi, on sait qu'il a des problèmes relationnels avec les autres joueurs dans le vestiaire. Donc à partir de là, Sampaoli ne le prend pas.
Mais c'est quoi les problèmes relationnels? Toujours ces histoires de gonzesses là.
Bah c'est quand même bizarre ce qu'il a fait. Il a piqué la femme d'un de ses coéquipiers qui est copain avec la majorité des joueurs du vestiaire. Il a fait tatouer la tête des gosses qu'il a adopté, mais qu'il, enfin bref, c'est une sale histoire. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis surtout quand
donc,
on regarde,
on n'est pas obligé de prendre ça. Ça peut arriver qu'un mec qui claque des buts dans tous les sens, qu'il soit un super attaquant, soit pas en sélection.
Et c'est encore plus simple quand t'as Agüero et Higuain aussi. Faut pas se voiler la face.
Bah, Higuain, s'il vient avec 520 kilos, il va venir avec un peu moins quand même. Parce que là.
Une photo d'Higuain est circulée sur les réseaux sociaux.
Attention au comité de défense des sportifs gratuits, tu vas te reprendre des volets.
En fait, Higuain, il est ultra fit, je t'annonce. Tablette de chocolat, mieux que
moi. Mais il a maigri alors.
Mec de Dell, c'est pas dur. Est-ce que mieux que moi? C'est ça la vraie question.
Mais toi, on voit pas, il y a trop de tatouages, on sait pas ce qu'il y a dessus.
Oh, dis rien, va sous ta poêle. Le provoque pas.
Merci Jonathan. 2-3 infos encore. J'ai reçu ça ce matin, un truc étonnant. L'album de la vente aux enchères du mobilier de la résidence de l'équipe de France de football. À Clairefontaine. Ouais, c'est ça.
Ils ont vendu les mêmes?
Le 10 juin prochain, il y a une vente aux enchères.
Il y a des trucs intéressants, toi?
Ah ouais, bah, il y a le billard de l'équipe de France, par exemple.
Non, ça, je m'en fous.
C'est moche.
Parce que j'avais raté une super vente, moi, comme ça, de l'ACF, là, les jetons de poker.
Il y avait du crayon aussi, là.
Attends, je vais te dire ce qu'il y a. Il y a les canapés Chesterfield.
Acheter un truc, hein, pas juste pour regarder. L'autre crayon.
C'était pas cher.
Canapé Chesterfield, mousse Bultex, coussin déhoussable, revêtement cuir, couleur mocha.
Je le vois où il était en plus.
Il est à vendre là, pam.
Combien
il est à vendre? Bah, ils disent pas, puisque c'est après c'est
vente aux enchères.
Il y a pas le prix. Paire de fauteuils Richelieu, structure merisier, finition teint de bois.
Ça vaut pas le coup, les gars. Acheter des meubles beaux, ça prend de la valeur en ce moment.
Tiens, faut voir un peu là.
D'accord, je te file le catalogue. Il y a les lustres, grand lustre, 12 feux. C'est ça à vendre.
C'était pas très beau.
Mais comment ça se fait? C'est pourquoi ils mettent tout ça en vente?
Alors c'est au profit de la recherche contre le cancer.
C'est bien.
Ça c'est bien.
Voilà.
Ça.
Donc, plutôt que jeter ça au rebut, ils font une vente aux enchères.
Espérons qu'ils redécorent du coup et qu'ils prennent des meubles un peu dans standing un peu plus.
Voilà,
un
donc
peu
ça
plus
c'est marrant. Je voulais vous relayer ça. C'est le 10 juin prochain. Voilà. Sinon au niveau des infos du jour, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Qu'est-ce que j'avais? Donc c'est à peu près tout. Une petite histoire. Oui, alors Guerrero a été reçu par Infantino, mais ça changera rien.
Et la pétition, non, c'est quand même joli.
Oui, alors je rappelle que c'est la star péruvienne qui sera pas au mondial puisqu'il s'est fait choper pour prise de cocaïne. Hein. Ouais. Donc voilà. Il a été reçu par Infantino aujourd'hui qui a dit désolé pour toi Coco, mais je peux rien faire.
Et lettre conjointe, notamment signée par Hugo Lloris des joueurs de la FIFPro pour demander sa réintégration.
Alors scandale au Pérou, un journal national là-bas a dévoilé que le Parlement a acheté 60 télés et 76 minibars pour les députés pendant la Coupe du Monde. Donc voilà, scandale national évidemment. Sauf qu'on a dit, mais en fait c'est parce qu'il y avait des vieilles télés au Parlement qui étaient de 90, qui marchaient plus, donc on voulait changer les télés. Bon, en fait tout le monde sait que c'est pour la Coupe du Monde. Hein. Donc ils sont forts les députés péruviens, bravo.
Donc elle est énorme la table du salon Roger Lemaire qui est mise en vente.
C'est quoi comme table?
Elle est énorme.
C'est une table de designer ou c'est une table...
Où est-ce que tu peux mettre ça chez...
Oh, c'est pas beau surtout les gars.
Mais elle est énorme la table. Tu peux inviter du monde.
L'info c'est qu'il y a un salon Roger Lemaire.
Ah oui, un salon Roger Lemaire.
Attention quiz, messieurs dames. C'est parti. Frédéric est là. Frédéric, bonsoir.
Bonjour Gilbert, bonjour Daniel, bonjour Jonathan.
Salut Frédéric.
Oh, le quiz, t'aurais pu le faire avec ça, là, les deux pages là. Joueur passé à Clairefontaine depuis 89. Alors là.
Ah, garde-le-moi pour plus tard. Pierre, bonsoir.
Alors là,
bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde.
Ah, salut, Pierre. Ils sont là, Pierre et Fred. Alors j'ai Pierre et Fred. Est-ce que je me trompe si je dis que vous êtes tous les deux des supporters du football corse?
Oui, on est corse.
Ça tombe bien, parce qu'on vous a préparé, vu l'actualité, un petit quiz corse. Eh oui, on est comme ça. Fred, tu choisis de faire équipe avec Daniel ou avec Jonathan?
Oh, tu crois qu'ils se sont trompés sur l'orthographe de Zidane?
Allez, avec Daniel.
Donc, avec Fred, avec Daniel. Et donc, Pierre avec...
Zénidine.
Jonathan. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? J'ai une BD sympa, Football District, à gagner chez Flûte Glacial. Attention, messieurs, dames, Fred, Pierre, c'est parti. On cherche un joueur, corse. Je suis passé par Montpellier, Newcastle et Marseille. Je suis né à Ajaccio.
Pérez.
Qui suis-je?
Non.
Par Montpellier.
Montpellier, Newcastle et Marseille. Je joue aujourd'hui à Saint-Étienne. Cabella.
Ah oui.
C'est Fred ou Pierre?
Pierre, c'est Pierre.
Pierre, bien joué. Rémi Cabella, 1-0 pour Pierre et Jonathan.
Ah oui, putain.
Attention. À quelle place a terminé le Gazélec d'Ajaccio lors de la saison 2015-2016?
Deuxième.
18e.
17.
Eh oui. 18e, tout à fait.
19e. Voilà. Daniel. Ils ont terminé 19e. Un partout. Attention, quel est le nom actuel de l'entraîneur du Sporting Club de Bastia?
Rossi.
Bien joué. C'est Pierre ou c'est Fred, là?
C'est Pierre.
Et vous avez le même accent, les mecs, je peux pas vous reconnaître. Pour assez...
ah, c'est raciste, ça, comme remarque.
Ben, ils ont le même accent. Ouais. Pierre, 2-1 pour Pierre et Jonathan. Stéphane Rossi, ancien entraîneur du CA Bastia, par ailleurs. Attention. Je suis un joueur corse. Je suis passé par Bastia, Toulon, le Racing Paris.
Anziani.
Olmeta.
Olmeta, ils sont là. Eh oui. Pascal Olmeta.
En même temps, ils ont qu'à le faire tous les deux.
C'est Pierre ou Fred?
C'est Pierre.
Pierre, il est bon, hein. Attention. Quelle est la nationalité du meilleur buteur de l'histoire de l'AC Ajaccio, François Mpelé?
Congolais,
Daniel, bien joué. Attention, Fred est avec Daniel, ça fait 3-2. Attention. Qu'est-ce que j'ai encore dans mes... non, mais là, regarde. Alors là, je dénonce.
Que?
Je dénonce Arthur qui me prépare ce quiz. Le mec, il a réussi à me mettre dans un quiz. Là, t'es dans l'after, mon petit Arthur. Il y avait une question. Quel club corse a atteint la finale de la Coupe de l'UEFA? J'ose même pas la poser. C'est un scandale, je déchire.
Immédiatement ça.
Non, mais franchement. Attention. 3-2, le suspense est total, messieurs. Je vais maintenant vous remémorer quelques matchs célèbres, ou pas, ou moins, ou pas, des clubs corses. Ouais. On va remonter... tout de suite à la finale perdue de la cette fameuse coupe 78, coupe de l'UEFA, Bastia PSV Eindhoven. J'aimerais que vous me donniez le gardien de but de Bastia ce soir-là.
Huard. Pierrick Huard.
Huard. Pierrick Huard. Bien sûr. Frédéric. Mais Frédéric est avec toi, donc c'est bon, ça fait 3-3.
Ah non, ça, non, parce que là c'était dur, quoi.
Pierrick Huard.
J'ai donné le prénom, tout.
Attention, on a trouvé un match assez sympa dans lequel était Jérôme Rotten. Je vais le retrouver, celui-là. Il est magnifique. 4 novembre 2012, Lyon-Bastia, victoire de Lyon 5-2. Je répète, victoire de Lyon 5-2. Je veux que vous me citiez un joueur...
En quelle année?
2012. Un joueur titulaire ce soir-là qui joue aujourd'hui à l'Olympique de Marseille.
Thauvin,
bien joué, Daniel. Oui. Ah, nous en sommes donc à 4-3. Je précise que Jérôme Rotten a marqué ce soir-là. Hein. Comme quoi, tout arrive. Attention, 4 novembre... Ah non, celui-là, c'est le même. J'ai interverti. 4-3, le suspense est total. Il reste deux questions, messieurs. Nous sommes le 11 janvier 2014. AC Ajaccio, Paris Saint-Germain. AC Ajaccio, Paris Saint-Germain. Le PSG gagne 2-1 en Corse. Qui est le gardien de but de l'ACA ce soir-là?
Ochoa.
Bien ouais. C'est Fred ou Pierre?
C'est moi.
C'est Fred ou Pierre?
C'est moi.
Pierre. Non, c'est Pierre.
Pierre, on est ensemble, ça va.
Ah oui, voilà.
4-4. Tout va se jouer maintenant sur cette dernière question, messieurs dames. Vous êtes pas mal, hein, Fred et Pierre, franchement, sur le foot corse.
Ils vont se la jouer, eux, la dernière...
Vous voulez comme ça?
Oui, ça va. Allez,
Fred et Pierre.
Sauf que Pierre, il est meilleur que...
Ça se joue entre vous.
Du coup, peut-être pas, quand même.
Messieurs, attention, s'il vous plaît.
J'aurais pas dû dire ça, en fait.
J'aimerais que vous me citiez... Tout de suite, lors de la finale de la Coupe de l'UEFA 1978, nous sommes le 9 mai 1978, j'aimerais que vous me citiez le seul joueur de l'équipe ce soir-là, né en Corse et pourtant marocain.
Crimo.
Crimo. Tout à fait.
Je crois que tu jouais pas.
Crimo.
Ah oui, merde.
Crimo.
Bon, autre question, vu que Daniel ne jouait pas. Merci Daniel d'avoir pourri le quiz.
Bah, j'ai oublié.
Attention, c'était évidemment Crimo, né en Corse, mais marocain.
Ah, bien sûr.
Attention, finale de la Coupe Intertoto. Eh oui, Bastia a gagné la Coupe Intertoto. C'était en 97 contre Halmstad, club suédois, grâce à un but d'un joueur bastier à l'extérieur, un joueur qui a joué un petit moment à Bastia. Est-ce que vous vous souvenez de son nom, Frédéric et Pierre?
By Prince, non?
Non, c'est pas Prince.
On peut jouer, nous?
C'est un joueur guinéen.
Faye. Non. Souma, Camara.
Souma. Morlaï Souma.
Et Souma, que je vois à Valenciennes aussi.
Exactement. C'est Pierre ou Fred?
Non, c'est Pierre.
C'est Pierre.
Bah, Pierre, c'est toujours Pierre.
Tu l'emportes. Pierre, bravo.
Bravo, Pierre.
Fred,
bravo,
il est venu
Pierre.
Pour dormir à la radio.
Non, non, mais il a été bon, Fred. Il a été bon.
On n'a pas
Football
fait
District,
non plus, hein.
On l'envoie à Pierre. Un t-shirt de l'after pour Frédéric. Bravo, les gars. Voilà. Bah,
tout le monde gagne. C'est l'école des
voilà,
fans ici.
Il se passe quand même des
je te le rends, le truc
des
finales de Coupe d'Europe et tout.
C'est génial. C'est fini pour ce soir. L'after sera là demain soir, juste après le barrage entre la CA et Toulouse, bien sûr. Bonne nuit à tous et à demain.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.